7h16, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
On commence ce matin avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et t'aborde la stratégie du président Trump.
Oui, il ne respecte pas, Paul, le brinkmanship. Dans mon jeune temps, tu sais, quand j'avais 20 ans et quelques poussières, moins de rides, moins de cheveux blancs, j'avais un prof qui s'appelait Germain Belzile à HEC et il nous parlait de la théorie des jeux économiques. Et il nous avait amené ça, le brinkmanship, tu sais, la stratégie du bord de l'abîme. C'est-à-dire, tu menaces ton opposant de faire sauter une bombe nucléaire. Tu sais, si jamais l'opposant fait pas ce que tu veux, faut que t'envoies ta bombe. Le président Trump envoie des bombes nucléaires économiques. Il dit, écoutez, si jamais vous faites pas ce qu'on veut ou vous ne rééquilibrez pas notre déficit commercial, je vais imposer des taxes et des tarifs à tout le monde. We won't back down. On changera pas d'idée. Il y aura pas d'exception. Et quelques semaines plus tard, ben finalement, le Canada, puis le Mexique, puis l'Europe, finalement, tout le monde va être quand même exempté à part tel pays. Et là, on refait la même chose avec la Chine. Ben, ce genre de stratégie-là fonctionne juste si tu mets ton plan à exécution au niveau de la guerre. Au niveau de l'économie, le problème, c'est qu'on est interdépendant. Tu sais, on dirait que Donald Trump comprend pas que si jamais il fait ça avec la Chine, mettre des tarifs puis imposer des barrières commerciales, il y a des Américains qui, chez eux, profitent de ça.
Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais le diagnostic fait par Trump est quand même réaliste, là. C'est-à-dire que, puis j'écoutais hier d'ancien conseiller économique d'Obama, qui n'était pas d'accord avec la guerre tarifaire puis la guerre commerciale, mais qui disait le vol de technologie, le dumping, les investissements massifs aux États-Unis des Chinois, c'est une réalité. Est-ce que la réponse de Trump est bonne? Non, mais le diagnostic, le constat est quand même réaliste, là.
Ah oui, il y a une différence entre ton constat et les moyens que tu
exact,
prends.
Exact.
C'est un peu comme dans un couple, tu sais, t'es pas content que la vaisselle soit pas faite, t'amènes un acte de divorce, c'est un peu ça, tu sais.
C'est un peu extrême.
Parce qu'effectivement, t'as raison, les propriétés intellectuelles, Paul, c'est un problème parce que, tu sais, on se fait copier plein d'affaires, on voit des produits apparaître sur les marchés qui sont semblables ou pareils à ce qu'on fait. Essaie d'aller te défendre en mandarin l'autre bout du monde, dans une usine cachée dans un coin que toi, tu dis, hey, tu copies mes affaires. Et la bourse, Paul, est un peu en parallèle de ça. Il y a une baisse hier 2,52 du S&P 500 et on est loin, là, du sommet là, du mois de janvier, du 26 janvier à 2800, 2900 points. On est à 2600, même chose au Canada. On a une baisse depuis le début de l'année de 5%, donc 1,76 hier. Donc, tu vois que cette espèce d'incertitude mondiale a un impact chez nous.
Une de tes compagnies préférées, David Stee, qui est aux prises avec des problèmes au conseil d'administration.
On en parle ce matin avec la presse canadienne dans la presse. Plus, Paul, j'aime ça, ça brasse au conseil d'administration. Tu sais comment j'aime David Stee.
Oui, je sais.
Pour moi, c'est comme l'entreprise où la poche n'infuse pas, où les résultats ont un goût amer, où l'entreprise est dans l'eau chaude. Donc, disons-le, Paul, le thé poigne pas. OK? Pourquoi? Là, t'as M. Segal qui était un des cofondateurs et surtout qui avait mis l'argent, là, qui possède encore 46% de la valeur, mais qui dit, écoutez, là, je sors du conseil d'administration, mais je vais revenir. Mais je vais revenir comme président. Là, ça veut dire, Paul, qu'il y a une chicane. Il y a une chicane au conseil. T'sais, il y a une chicane, les gens se disent, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on liquide l'entreprise? Est-ce qu'on la vend? Est-ce qu'on la privatise? C'est-à-dire, comme les actions en bourse sont à 3 piastres et quelques, on pourrait toutes les racheter, reprivatiser ça et revendre ça d'une autre façon ou revaloriser ça d'une autre façon. C'est souvent une stratégie faite quand on trouve que les obligations réglementaires coûtent cher et que, en bourse, les stratégies qu'on va mettre de l'avant risquent de déplaire aux investisseurs et ça risque de faire bouger le capital un peu trop. Donc, quand on revient privé, on gère ça entre nous autres, on restructure ça entre nous autres, on n'a pas la pression des résultats trimestriels, et puis ça fait en sorte qu'on peut laisser tomber un peu les résultats pour aller au plus long terme. Parce que là, depuis un an, Paul, mettons que tu avais acheté du David Stee l'année passée, en écoutant mes chroniques, tu étais comme, non, moi Pierre-Yves, je t'écoute pas, je vais en acheter du thé. Tu aurais perdu sur un an 53% de la valeur, et tu te seras trouvé actionnaire de ça, Paul. Avec des magasins qui ont un grand coût fixe, avec un thé qui ne lève pas. Pourquoi? On n'a pas réussi à convaincre les Canadiens et les Américains que le thé était aussi spirituel que le café.
Tu vois, je suis passé, c'est samedi dernier, au promenade Saint-Bruno. Oui. Je suis passé devant un David Stee. Mm-hmm. Et tu sais, puis là, je pensais à toi parce que je me suis dit...
Ça tu n'en as pas acheté, hein?
Non, j'ai pas acheté. Non. Mais ça coûte cher du pied carré, quand même, l'espace. Oui. Puis c'est beaucoup d'espace, là. C'est pas une petite boutique, là.
C'est assez gros. C'est plusieurs milliers de dollars, là. On s'entend, là. C'est plusieurs milliers de dollars par mois. Donc, par année, l'exploration,
Paul,
de ça. t'en vends du thé, t'as des coûts fixes, et ton thé, pour le client, a-t-il une valeur supplémentaire? Tu sais, si t'arrives au comptoir, puis tu te fais faire un café, puis que ça prend 5 minutes, puis que le barista te fait un petit flat de café, c'est le fun. T'arrives chez David Tea, il pogne des feuilles, il sac ça dans l'eau, laisse infuser avec un timer. Voilà, 4$. Alors, le client, lui, se dit, « Ouais, t'as une minute, là. J'ai-tu de l'air assez trend au bureau avec mon David City pour justifier mon 4$? » Au-delà de ça, il y a la vente de thé en vrac. Mais là, le client, il y a beaucoup de concurrence. Tu sais, ça va jusqu'à l'épicerie, là. Tu peux acheter ton thé à l'épicerie. Est-ce que quand t'es chez vous, tu vois beaucoup de différence entre ton Earl Grey de là ou ton thé spécial? Ajoute à ça aussi le fait des points, Paul. Le système de points chez David City est tellement compliqué. Tu gagnes des points. Si tu viens pas en dedans de telle date, tu perds tes points. Ça reset, on arrondit. Donc, pour le client, il y a de la difficulté à avoir autant de valeur. C'est ça, Paul. Mais bon, Paul, 6,5 millions américains de pertes au dernier trimestre. Si jamais tu repasses, tu peux m'en acheter. C'est un beau cadeau à faire à des collègues de travail.
C'est beau. En tout cas, l'emballage, là, j'avoue que ça, c'est pas mal.
Le contenant, Paul. Mais nous autres, c'est comme à radio, toi et moi. Il y a le contenant, puis le contenu est là. Ça fait un beau mélange.
Bon, ben, bonne tasse de thé et bon week-end.
Salut.
7h22.